Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 28, chapitre 5. Au début de la visite, après l'entrée par la rue du repos, le guide m'expliqua, j'étais son seul client, que l'allée principale se trouvait à quelques pas. C'était là qu'étaient enterrées les célébrités. On pouvait l'éviter toutefois, ajouta-t-il avec une ironie que je jugeais qu'il valait mieux réserver à un public français, car les célébrités n'en étaient parfois plus. Difficile de s'assurer de l'éternité. Et moi qui prétendais en toucher les bords avec mes recherches. Au milieu du cimetière, je repérais quelques chemins au nom chatoyant que j'avais identifiés sur le plan. Chemin à mon voisin, chemin du dragon, chemin du coq, chemin des chèvres, ou le bien nommé chemin du Père éternel. Et pendant que je marchais sur ces couches de morts, les nouveaux remplaçant les anciens dans un mouvement continu, je me demandais ce que faisaient ces défunts. Qu'étaient devenues toutes ces vies ? Que ce soit pour les athées, les catholiques ou les spirites, il n'y avait rien sous ce cimetière. De la poussière, des dépouilles, des carcasses. Ceux du dessus étaient là pour se souvenir. Le lieu était pour eux, pas pour ceux d'en dessous. Le monde immatériel dont parlaient les religieux était-il moins tangible que cet amas de dépouilles ? La mort, ce seul destin commun de l'humanité. Même la science n'y pouvait rien. L'art, peut-être, la faisait oublier un moment ou la sublimait. J'avais réservé le guide par Internet. J'avais franchi la porte du repos et il m'attendait. La première tombe devant laquelle il s'arrêta était celle d'Héloïse et Abélard. Le romantisme était bien en accord avec le lieu. Abélard, tombant amoureux dans les premières années du XIIe siècle de son élève Héloïse, qui enfanta bientôt Astrolabe. Les deux embrassant ensuite la vie monastique et Abélard devenant un important prêtre clunisien. Cette histoire ne pouvait qu'être contée au XIXe siècle. Le beau monument abritant les deux gisants les représentant avait été construit en 1817 et leur reste mortuaire transféré au Père Lachaise. Abélard et Héloïse y apparaissaient sous des traits fins, intemporels et asexuels, le premier ayant été émasculé sous l'ordre de l'oncle d'Héloïse. La tombe de Chopin avait une dédicace simple et informelle. Le « à Fred Chopin » le rendait familier. Ce qui le rapprochait également du présent dans mon esprit était le fait que sa tombe était régulièrement fleurie par des Polonais de passage à Paris. J'ignorais que le cœur du compositeur avait été, selon ses vœux, transporté à l'église Sainte-Croix de Varsovie. Mort à 39 ans, Liszt aurait dit de lui « Chopin est passé parmi nous comme un fantôme ». Comme j'avais eu le temps de dire au guide que je résidais en Amérique du Sud, il me signala, devant la tombe d'Auguste Comte, qu'elle était très prisée et entretenue par des Brésiliens, comme celle d'Allan Kardec, que je pourrais voir également. Je ne lui dis pas quel était mon objectif principal. Je le laissais déclarer ce que je savais pertinemment, que la devise du positivisme, ordre et progrès, ornait le drapeau brésilien. J'aurais pu ajouter que la maison de Clotilde de Vaux, le grand amour de Comte, avait été achetée par l'église positiviste du Brésil au début du siècle, mais je ne m'étais pas présenté comme un historien. En attendant, le guide m'expliquait que l'inscription à Auguste Comte et ses trois anges se référait justement à Clotilde, à sa mère et à sa jeune bonne, qu'il considérait comme son enfant adoptive. A priori, tout séparait l'athée, adepte de la religion humaniste, et le créateur du spiritisme. J'avais depuis longtemps une faiblesse pour l'incroyant, qui avait tant fait pour la diffusion de la raison scientifique. Ils n'étaient cependant pas des quasi-exacts contemporains pour rien. Hippolyte Léon Denisard Rivaille, dit Allan Kardec, avait également une vision scientifique et fortement expérimentale, influencée par le positivisme. Comme je le savais, depuis ma première visite au Brésil.